Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec et Ekia Badou en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel, mercredi 13 février. Au sommaire ce soir.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kanto a été inculpé pour rébellion, insurrection, hostilité contre la patrie.
Au Nigeria, des bureaux de la commission électorale ont été incendiés. Des milliers de cartes d'électeurs sont détruites à 3 jours des élections.
Grève générale en Afrique du Sud, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays.
En Haïti, les manifestations contre le président ont fait au moins 6 morts.
Et puis ne manquez pas l'actualité économique et les sports, ce sera juste après le journal.
Au Niger, attaque ce matin contre le poste de gendarmerie de Bagadji, dans le département de Douchi, ville frontalière avec le Nigeria. Des hommes armés à bord de 2 roues ont ouvert le feu, tuant 2 gendarmes et 1 civil, selon les autorités. Précision avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
L'attaque a été confirmée à VOA Afrique par le préfet du département de Douchi, Moussa Sorka.
Il y a une attaque vers midi à Bagadji. Bagadji, c'est à une trentaine de kilomètres de Douchi. Les bandits armés doivent attaquer le poste de gendarmerie. Il y a eu 2 gendarmes qui est présent sur l'Afrique. L'Afrique en prenant la direction du nord. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Non, justement, on n'a pas une idée. C'est pas qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher, de recouper les informations. Pour le moment, on attend les informations complémentaires.
Mercredi, c'est le jour du marché hebdomadaire du village de Bagadji. Les détonations d'armes ont créé une vive panique. Des opérations de recherche seraient engagées pour retrouver les assaillants dans cette zone, pas trop loin de la frontière avec le Nigeria, où la présence de groupes djihadistes a été récemment signalée. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a inculpé l'opposant Maurice Kanto et 28 de ses partisans pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Ils ont tous été transférés à la prison centrale de la capitale. Nathalie Barge.
Plus de 100 militants ont été amenés avec Maurice Kanto au tribunal militaire de Yaoundé. Ceux qui n'ont pas été inculpés cette nuit doivent être entendus aujourd'hui, selon Maître Emmanuel Sim, vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle d'octobre dernier, Maurice Kanto, arrivé second, a appelé à manifester contre la réélection de Paul Biya. Après son arrestation le 28 janvier à Douala, il a été placé en garde à vue dans les locaux du groupement spécial d'opérations à Yaoundé. Le MRC affirme que plus de 200 de ses partisans ont été arrêtés ces dernières semaines en marge des manifestations. Selon les autorités, 147 personnes sont en détention provisoire et attendent d'être présentées à un juge. La France se dit préoccupée par la situation de M. Kanto et de ses partisans détenus. Selon elle, l'opposition devrait pouvoir s'exprimer librement.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est dit très préoccupé par la situation des droits humains et les risques de conflits au Cameroun, où le principal opposant au président Paul Biya, Maurice Kanto, a été inculpé d'hostilité contre la patrie.
En Côte d'Ivoire, le député Alain Lobognon, proche de l'ancien chef de la rébellion Guillaume Soro, a vu sa peine de prison de 12 mois ferme réduite à 6 mois avec sursis en appel par un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un de ses collègues députés âgés de 50 ans, cet ancien ministre de la Jeunesse et des Sports qui avait cessé dimanche une grève de la faim, apparu soulagé par la décision.
Le convoi militaire du gouverneur de l'État du Borno, dans le nord-est du Nigeria, a été attaqué par des combattants du groupe djihadiste Boko Haram, faisant 4 morts, dont 2 soldats, quelques jours avant les élections générales, selon des sources sécuritaires. Les élections de samedi, un dossier sur lequel nous reviendrons dans notre partie magazine.
Le Conseil de sécurité a exhorté les parties au conflit en Centrafrique à appliquer sans retard l'accord de paix conclu il y a une semaine, qui prévoit un gouvernement inclusif, un cessez-le-feu immédiat et d'accélérer la réconciliation et la justice.
Au Tchad, le directeur de publication du journal Éclairage a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation envers le frère du président Idriss Déby Itno. Déby Nestor a été condamné également à verser 500 000 francs CFA de dommages et intérêts et 50 000 francs d'amende. En juin 2017, le directeur de ce journal a fait paraître un article qui incriminait Daoussa Déby Itno d'être l'un des barons de la fraude relative à l'importation de sucre depuis le Soudan vers le Tchad.
Par ailleurs, le président tchadien a dénoncé ce mercredi un grave problème intercommunautaire dans l'est du Tchad lors d'une visite à Abéché, capitale régionale du Wadaï, selon des propos rapportés par la radio nationale tchadienne.
Au Soudan, les organisateurs des manifestations antigouvernementales ont annoncé être déterminés à poursuivre la mobilisation jusqu'au renversement du régime, excluant tout dialogue avec le président soudanais Omar el-Béchir. Miné par une profonde crise économique, le Soudan est secoué depuis le 19 décembre par des manifestations quasi quotidiennes déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Et des rassemblements qui se sont transformés en un vaste mouvement de contestation anti-Omar el-Béchir au pouvoir depuis un coup d'État mené en 1989.
La République démocratique du Congo est touchée par des épidémies de choléra et rougeole, en plus d'Ebola qui a fait au moins plus de 500 morts en 6 mois, ce que vient d'annoncer l'équipe des Nations Unies dans le pays. En l'espace d'un mois, plus de 50 personnes sont mortes de choléra dans 3 provinces du Sud-Est et la rougeole a fait au moins 137 morts dans le seul mois de janvier dans 2 provinces.
En Afrique du Sud, à l'appel de la COSATU, la puissante centrale syndicale du pays, des milliers de personnes ont manifesté dans les principales villes pour exiger la fin des licenciements. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous voulons des emplois, rien que des emplois, a lancé Zingigwa Lossi, patronne de la COSATU, lors d'une manifestation à Durban. Elle a ajouté que son syndicat ne veut plus entendre parler de plan de licenciement ou de restructuration, expliquant que 9,3 millions de personnes sont à la recherche d'un travail. Cette grève intervient à 3 mois des élections générales du 8 mai. L'ANC, allié historique de la COSATU, espère conserver sa majorité, malgré les difficultés et les affaires de corruption qui l'éclaboussent. La COSATU, dont un des membres fondateurs est Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis la démission de Jacob Zuma il y a 1 an. Monsieur Ramaphosa a promis de relancer l'économie. Il s'est aussi engagé à éradiquer la corruption qui a caractérisé le règne de son prédécesseur. Ce mouvement survient alors que le géant de l'électricité Eskom, plombé par une dette de quelque 27 milliards d'euros, est contraint depuis dimanche à des délestages massifs qui affectent tout le pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Haïti est confronté à un mouvement de contestation anti-gouvernementale. La population proteste contre la vie chère et réclame le départ du président Jovenel Moïse. 6 personnes ont trouvé la mort depuis le début des contestations jeudi. Éric Manirakiza.
Le pays vit des scènes chaotiques. Blocage de routes, voitures incendiées, quelques magasins pillés. La contestation ne baisse pas. À l'origine, un rapport de la Cour supérieure des comptes sur la gestion calamiteuse et de possibles détournements des fonds depuis 2008. Une quinzaine d'anciens ministres et hauts fonctionnaires sont pointés du doigt. Le président Jovenel Moïse est aussi épinglé comme bénéficiaire de fonds à travers une entreprise de construction qu'il dirigeait avant son élection. Les opposants ont exprimé avec rage leur frustration contre les inégalités sociales grandissantes aggravé par la corruption systématique. La population souffre encore plus de la faim, disent les manifestants, et si le président Jovenel Moïse s'accroche au pouvoir, les manifestants jurent de faire souffrir la bourgeoisie qu'il a soutenue.
Attentat suicide en Iran. Au moins 20 personnes ont été tuées dans l'attaque visant un bus des gardiens de la Révolution, l'armée d'élite du régime. C'est ce que rapporte l'agence de presse officielle iranienne IRNA.
Toujours concernant l'Iran, la Cour internationale de justice a jugé recevable la demande de Téhéran en vue de récupérer des milliards de dollars d'avoirs gelés aux États-Unis. Washington souhaite que ces fonds aillent aux victimes d'attaques attribuées à l'Iran, mais les juges ont rejeté la requête américaine. La Cour organisera d'autres audiences pour décider si l'Iran peut récupérer les 2 milliards de dollars gelés par la Cour suprême des États-Unis en 2016.
En Syrie, les djihadistes sont acculés dans la province de Deir ez-Zor, dans une zone de quelques kilomètres carrés allant du village de Baghouz à la frontière irakienne. Ils continuent de résister à l'assaut des forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde appuyée par Washington. Des centaines de personnes, principalement des familles de djihadistes, fuient les combats.
Le président américain Donald Trump a reçu son homologue colombien à la Maison-Blanche. Ils ont discuté de l'aide humanitaire d'urgence, essentiellement nourriture et médicaments, envoyés par les États-Unis qui s'accumulent dans des dépôts en Colombie, pays frontalier du Venezuela. Le président Nicolas Maduro nie toute famine dans son pays, estime même que cette aide qu'il rejette n'est qu'un show politique avant une intervention militaire de Washington. Le pont qui relie la Colombie et le Venezuela est barré depuis la semaine dernière par des militaires vénézuéliens. Le président américain a réaffirmé qu'il étudierait toutes les options concernant le Venezuela.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, compte rencontrer le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, vendredi à Munich. Notre objectif principal est de préserver le traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, conclu en 87 par Moscou et Washington, a insisté Jens Stoltenberg. Washington accuse Moscou d'avoir violé ce traité et a décidé de s'en retirer. Moscou a immédiatement annoncé sa décision de faire de même. La fin du traité FNI est programmée pour août 2019, l'OTAN exhorte la Russie de profiter de cette fenêtre de 6 mois pour se conformer à ses obligations et sauver le traité, ce qui impose la destruction des nouveaux missiles.
Voilà pour Le Monde Aujourd'hui. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Gabon vient de bénéficier de 77 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement pour réhabiliter 300 kilomètres de conduite d'eau potable à Libreville et sa périphérie. D'après le gouvernement gabonais, cité par la Tribune, le projet permettra de faire passer le taux d'accès à l'eau potable de 25 à 85% en zone rurale et de 45 à 95% en zone urbaine. Il permettra aussi de faire passer le taux d'assainissement de 10 à 80% en zone rurale et de 32 à 80% en zone urbaine. Le gouvernement tanzanien envisage d'interdire des importations de poissons de la Chine, du Vietnam et d'autres pays de l'océan Indien. Ecofin rapporte que cette démarche devrait permettre de protéger la pêche locale qui produit près de 336 000 tonnes par an, alors que la demande plafonne à environ 731 000 tonnes. Pour compenser ce déficit, le pays importe près de 24 000 tonnes de poissons par mois pour une facture de 56 milliards de shillings. Terminons avec le groupe marocain OCP qui a obtenu l'autorisation de son gouvernement pour créer avec la société publique éthiopienne Chemical Industry Corporation une entreprise commune pour un capital social de 50 millions de dollars.
Et on enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Le Mali est le premier qualifié pour la finale de la CAN des moins de 20 ans.
Et oui, les Aiglons maliens ont arraché la qualification au bout des tirs au but par 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 1-1 entre Maliens et Nigériens à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Mahamadou Traoré avait ouvert la marque pour le Malien à la 78e. Pachal Dourougbor a égalisé 5 minutes après pour le Nigeria. Le Mali connaîtra son adversaire de la finale à l'issue de la seconde demi-finale entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Les Lionceaux sénégalais visent leur troisième finale de suite dans cette CAN des moins de 20 ans.
Et ça se complique pour la SEC en Ligue africaine des champions.
Et oui, dos au mur, les Ivoiriens se sont contentés hier des matchs nuls à domicile face à Mamelodi Sundowns 0-0 pour le compte de la quatrième journée du groupe A. Mais tout n'est pas encore fini, comme nous le dit le coach de la SEC d'Abidjan, Amani Yao.
On a plus eu le ballon que cette équipe, contrairement au match aller. On a plus eu le centre. Maintenant, comme je dis, c'est la finition qui nous a manqué. On a plus été présent dans leur camp que dans le nôtre. Ce qui nous a manqué énormément au match aller. Moi, mathématiquement, j'ai dit, il n'y a encore rien qui est fait. Donc, on va batailler jusqu'au bout, prendre les 6 points, puis après, on verra.
Amani Yao était au micro de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. Dans l'autre match de ce groupe A, le Wydad Casablanca a été tenu en échec à domicile par les Nigériens de Lobista, 0-0.
Et belle opération pour Oroya dans le groupe B.
Et oui, les Guinéens se sont imposés 2-0 face aux Zimbabwéens du FC Platinum à Conakry. Même score en faveur de l'Espérance Tunis face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, 2-0 donc. Dans le groupe C, le club africain et le TP Mazembe se sont quittés 2-2, 0-0 à Rades. La rencontre entre Ismaili et Constantine a été reportée. Enfin, dans la poule D, l'AS Vita Club s'est mise en danger en s'inclinant 1-0 en Algérie face à Saoura. Et les Tanzaniens de Simba ont créé la sensation en s'offrant le scalp d'Al Ahly 1-0 à Dar es Salaam.
Ligue des champions ce soir en Europe ?
Oui, Morgan, le Real Madrid a retrouvé de l'allant au meilleur moment pour débuter la défense de sa triple couronne à Amsterdam contre l'Ajax. L'histoire penche du côté des Merengues. Jamais les Espagnols n'ont été éliminés en huitième depuis 2010, quand les Néerlandais, eux, n'ont plus vu les quarts depuis 2003. De leur côté, les Allemands du Borussia Dortmund rendent visite à Tottenham sans leur meilleur buteur Marco Reus. Touché à une cuisse, les Spurs seront privés, eux, d'Harry Kane et de Dele Alli, blessés.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Ekia Badou. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
On démarre par le Sénégal où plusieurs guides religieux et personnages publics ont des gardes qui assurent leur sécurité privée. Souvent assimilés à des milices, ces groupes opèrent au vu et au su de tout le monde. L'un de ces groupes, affilié au parti de l'Unité et du Rassemblement, est à l'origine des violences meurtrières de Tambunkunda. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abergaï, a demandé aux Sénégalais ce qu'ils pensent de ces milices.
La scène surréaliste qui s'est déroulée à Tambacounda entre des militants de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakar et ceux du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur inquiète plus d'un. Ça pousse même certains citoyens à se poser la question de savoir si les guides religieux ou responsables politiques ont le droit d'avoir des hommes armés. Négatif, répond Babacar Fall. Ce gérant d'un multiservice trouve cette pratique anormale.
Ces histoires d'armées, milices et autres là, pour moi, c'est pas du tout normal. Parce que ça soit un chef religieux, un homme politique ou qui que ce soit, normalement, si vous voulez avoir une sécurité pour vous personnellement, vous devez vous procurer soit la police ou la gendarmerie. Pour moi, c'est la seule sécurité qui est là, valable ici, actuellement au Sénégal et même partout dans le monde. Parce que les petites armées à gauche, à droite, ça amène que des problèmes en fin de compte.
Étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousseynou Kane trouve que dans un état de droit, personne ne devrait engager des civils pour assurer sa sécurité.
C'est quelque chose qui est déplorable entre les deux camps, dans une situation où on dit que le Sénégal c'est un pays démocrate, où chacun peut exprimer ce qu'il pense. Donc arriver à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on déplore, quoi. Donc concernant les gardes-corps, les hommes religieux comme les hommes politiques, je pense qu'il faut qu'on essaie de les éviter. Il faut que l'État prenne en charge cette question de sécurité, essayer de prendre ses responsabilités, quoi.
Mustapha, lui, voit cette situation comme une faiblesse de l'État. Selon lui, seules les forces de l'ordre et les forces de défense et de sécurité ont le droit de s'armer.
Moi, je considère ça comme une irresponsabilité de notre État. Selon Seigne Modoukara, par exemple, il a son armée. On peut dire que c'est lui qui dirige cette arme. Il peut donner des ordres à faire quoi que ce soit à ils ne vont qu'exécuter. Seulement, c'est notre armée nationale qui doit avoir ces armes-là. Donc, quiconque qui l'aura, donc, ça peut constituer un danger public pour nous tous.
Pour mettre un terme à cette situation qui perdure, le ministre de l'Intérieur, Aliou Ndiaye, promet de prendre les dispositions nécessaires pour interdire ces milices.
Je ne pense pas que ça soit lié au problème de sécurité. Vous avez tous vu les images. Donc, je pense que si vous voyez les images, ça montre simplement que d'abord les personnes recrutées autour de ces des différents candidats font preuve d'une violence anormale et nous allons prendre toutes les dispositions pour que cela s'arrête.
L'opération annoncée par le ministre de l'Intérieur semble avoir commencé avec notamment l'arrestation de 24 membres de la sécurité du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Après cet événement tragique de Tambacounda qui a fait 3 morts et des dizaines de blessés parmi lesquels des journalistes, les populations demandent à l'État d'être plus responsable et d'interdire formellement l'existence de ces groupes de sécurité privés souvent assimilés à des milices. À Dakar, Seydina Abagaï pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. En plein débat sur l'année du retour 2019 lancée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, Washington Forum braque ses projecteurs sur la diaspora africaine. L'initiative du gouvernement ghanéen est-elle une bonne démarche pour inciter la diaspora au retour? Pourquoi décide-t-il de rentrer? Comment faire revenir les compétences et les capitaux des Africains installés hors du continent? Reconstruire au pays nécessite-t-il de retourner ou bien peut-il se faire de l'étranger? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Nigeria, les déplacés du conflit dans le nord-est pourront-ils voter lors de la présidentielle prévue samedi? La question reste entière. La commission électorale assure pourtant que tout a été mis en place dans les centres de déplacés. Notre correspondant au Nigeria, Gilbert Tamba, s'est rendu dans le centre des déplacés de Durumi.
Ils sont plus de 3000 personnes déplacées dans ces camps situés dans le quartier de Durumi. C'est l'un des 18 centres de déplacés près d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. La Commission nationale électorale indépendante a promis l'installation des bureaux de vote dans les centres de déplacés où vivent des personnes chassées par le conflit sanglant du groupe terroriste Boko Haram. Oumar Gola a fui les violences dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est. Il est le président de ces centres de déplacés.
Oui, c'est ce que nous avions entendu dans les journaux de la radio et de la télévision. Mais jusqu'ici, nous attendons de voir les bureaux de vote dans les camps de déplacés. Par exemple, ici, c'est notre camp et voilà notre lieu de réunion. Mais comme vous le voyez, aucun bureau de vote n'existe ici.
Mais les déplacés ici veulent tous pouvoir voter samedi. Idriss Ibrahim Halilou, 60 ans, est originaire de l'état de Borno, s'est dit prêt à marcher pour rejoindre un bureau de vote.
En réalité, il n'existe pas de bureau de vote ici. Mais je peux vous rassurer que nous sommes habitués à marcher. Donc pour nous, faire 2 km, 5 ou même 15 à pied, c'est juste comme un exercice physique.
Idriss n'est pas le seul à vouloir marcher des kilomètres pour pouvoir voter. C'est le cas de Siatou Ayouba. Elle est la présidente des femmes déplacées vivant dans ces centres.
Même si nous n'avons pas de bureau de vote ici, et même si c'est juste que dans le quartier de Gwalimpa, j'ai décidé et j'irai jusqu'à là-bas pour voter. Je vais marcher pour aller voter pour celui que j'aime.
Au total, quelques 35 000 personnes déplacées vivent dans les centres de déplacés établis dans la capitale fédérale. La commission électorale affirme que des arrangements ont été faits pour permettre aux personnes déplacées de voter pour la présidentielle. Aliou Bello, le porte-parole de la CENI, explique.
Oui, la commission a travaillé sur la question et a adopté des modalités pour permettre aux personnes déplacées de voter comme cela sera possible. Pour les déplacés qui ont été chassés de leurs états d'origine où ils sont inscrits avant, ils pourront seulement voter pour la présidentielle puisque tout le pays représente une seule circonscription électorale.
L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria depuis plusieurs années déjà a fait plus de 20 000 morts et environ 6 millions d'autres personnes déplacées. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les professionnels de la radio commémorent ce 13 février la journée mondiale de la radio sous le thème central « Les radios vecteurs de dialogue et de paix ». Au Tchad, les radios privées fonctionnent avec beaucoup de difficultés, notamment salariales. Les précisions d'André Komadjingar, notre correspondant N'Djamena.
Pour les radios tchadiennes, les temps sont durs. Le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Hamad Dieudonné Jonabaï, vient d'effectuer une tournée dans les provinces du Tchad.
Ils ont un seul studio, une seule console, un émetteur, un seul enregistreur. Parfois, les studios ne sont même pas insonorisés. Nous ne parlons même pas de téléphone parce que ça, c'est un luxe. Pas seulement les conditions techniques, les ressources humaines n'existent pas. Parfois, vous trouvez deux ou trois personnes qui n'ont même pas de traitement.
Dikouniga Kautar Lazar, ex-secrétaire général de l'Union des radios privées du Tchad, par ailleurs, directeur de la radio FM Liberté et Diane, Neloumal Koïdéré, PDG de la radio Oxygène, énumère aussi au micro de VOA Afrique quelques difficultés qu'ils rencontrent pour le fonctionnement de leur entreprise.
Si on prend la ville de N'Djamena, vous pouvez passer 2-3 jours sans avoir de l'électricité. La chose suivante, c'est l'entretien ou la maintenance de nos dispositifs de diffusion, les émetteurs et les amplificateurs. On n'a pas de techniciens qualifiés pour dépanner ces appareils-là en cas de panne. Il y a cela deux ans, on était à peu près 38 radios privées. Mais maintenant, il y a beaucoup qui ont fermé leurs portes.
La radio vit de ses propres moyens. On n'a pas de partenaires, donc c'est pas facile. On a des problèmes avec notre émetteur. Comme c'est grillé, on nous demande d'envoyer l'émetteur en France. Envoyer ça au labo d'abord et ils vont nous dire ce qu'on peut faire. C'est dur. La nuit, là, je ne dors pas comme avant parce que je ne peux pas faire tomber la radio.
Rassou Gagé, auditeur de radio locale, connu pour son franc-parler, lance un appel au gouvernement de ramener le fonds d'aide à la presse suspendu il y a 4 4 ans afin de donner une bouquet d'oxygène aux radios privées qui risquent sous peu de fermer leurs portes.
Vous savez, l'aide à la presse ne vient pas. Ça permet même de faire des recyclages pour ces journalistes-là. Parce qu'il ne faut pas rester 5 ans, 10 ans. Non, c'est la vraie galère. Des journalistes privés, c'est un combattant qui va à la guerre sans armes. C'est un parcours de combattant.
Pour le président de la AMA, Dieudonné Djounabaï, l'institution qu'il dirige et les responsables des médias sont en pourparlers afin d'adopter une nouvelle stratégie pour amener certains partenaires à accorder des subventions aux organes de presse.
Si vous avez une subvention de 100 millions à partager entre 30 ou 35 journaux, vous avez une soixantaine de radios, vous allez prioriser lequel? Voilà la difficulté. Mais nous sommes en train de réfléchir comment amener les communes qui sont un peu nanties à accorder la subvention à ces radios. Malheureusement, elles ne le font pas. Pourtant, c'est des radios qui leur rendent d'énormes services.
Certains journalistes de radios privées du Tchad sont très mal traités du point de vue salarial. Mais compte tenu de la précarité d'emploi, ils refusent de faire de commentaires de peur d'être virés par leur patron. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump persiste. Selon lui, un mur sera construit à la frontière avec le Mexique, même si le Congrès n'approuve pas les fonds qu'il demande. Un comité bipartisan du Congrès a trouvé un accord de principe pour financer le gouvernement jusqu'au mois de septembre. Le président Trump dit qu'il n'aime pas le contenu de l'accord, mais des sources à la Maison-Blanche ont indiqué qu'il pourrait le signer. Un reportage de Zlatika Hawke, rendu par Abdourahman Dia.
Le compromis n'inclut pas les 5,7 milliards de dollars que le président demande pour construire un mur à la frontière sud. 1,4 milliard ont été alloués pour la construction de 90 kilomètres de barrières en acier qui viennent s'ajouter aux 1100 kilomètres déjà en place. Le président Donald Trump, peu après l'annonce de ce compromis.
I'm not happy about it. It's not doing the trick, but I'm adding things to it.
Je ne suis pas content. Cela ne fait pas l'affaire. Mais je vais y ajouter des choses, et lorsque vous ajoutez tout ce que vous avez à ajouter, ça va se réaliser quand on construira un beau, grand mur qui va empêcher les criminels et les trafiquants de drogue et la drogue d'entrer dans notre pays. C'est très simple.
Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, espère que le président signe la loi sur le budget.
Je pense que nous avons un très bon accord. Vous savez, la présidente de la Chambre avait dit qu'il n'y aurait pas un seul dollar pour le mur. Maintenant, j'imagine que nous allons avoir un débat sur ce que c'est un mur, des barrières. Les démocrates voulaient une limite sur le nombre de détentions. Donc, je pense qu'il s'en sort bien. J'espère que cela se termine, car il faut qu'il signe la loi.
Même son de cloche du côté démocrate. Chuck Schumer, patron de la minorité au Sénat.
Le président ne doit pas commettre la même erreur qu'il a commise il y a 2 mois lorsqu'on lui avait présenté un accord bipartite qu'il avait refusé de signer, causant le shutdown.
Le président Trump, bien que mécontent, a déjà dit qu'il ne voulait pas d'une autre fermeture du gouvernement.
Je ne pense pas qu'on aura un shutdown. Je n'aimerais pas qu'on en arrive là. Et si c'était le cas, ça serait la faute des démocrates.
Cependant, le président a indiqué qu'il considérait toutes les options pour construire le mur, y compris la déclaration de l'état d'urgence pour sécuriser les fonds nécessaires. Mais une telle option susciterait immédiatement des recours en justice qui pourraient retarder la construction du mur. Le sénateur démocrate de la Virginie de l'Ouest, Joe Manchin, lui reconnaît toutefois certains pouvoirs constitutionnels sur la question.
J'espère que ces fonds ne proviendraient pas de programmes destinés aux zones durement affectées, soit par les inondations ou les incendies. Mais il y a d'autres endroits où ils peuvent réaffecter des fonds. Je pense qu'ils cherchent de ce côté.
Les parlementaires travaillent encore sur les détails de ce budget qui doit être approuvé par les deux chambres du Congrès avant d'être signé par le président.
Up and reset that sun, reverse these wheels, go back and re-pick you up. Went by so fast, oh so sweet, make me wanna remake a memory. Wish I had me a time machine. Oh, I
la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Firmin Max Koyaweda, la console Bill Andrade, à la présentation Ekia Badou et Morgane Guiriec.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.